Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Aujourd'hui, là, pour Mission Vision, je fais un spécial de deux belles jeunes filles qui ont participé à la même émission, L'âge des possibles, qui est diffusée sur Ami Télé. Et je vais recevoir chacune, une après l'autre, dans cette émission, deux belles jeunes en situation de handicap visuel, évidemment, très inspirantes. Et je vais commencer par Anouchka Mabika et tout de suite après Émilie Boyer. Et on va découvrir qu'ils ont un parcours vraiment inspirant. Mais j'accueille en premier Anouchka qui est avec moi en studio. Allô Anouchka.
Bonjour.
Comment ça va?
Je vais très bien et vous?
Mais moi, ça va vraiment bien. Je suis très contente de t'avoir en studio hein, parce que tu as vraiment une histoire super inspirante et c'est très drôle parce que quand j'ai fait une entrevue avec du personnel de Jacques Ouellette, de l'école Jacques Ouellette, ouais. Et que je leur ai dit que j'allais te recevoir, ils me disent « Ah! Ah, tu vas voir Anouchka! Ah, tellement inspirante cette jeune! » Donc, Anouchka, tu as 18 ans. Alors, toi, c'est quoi ta condition visuelle? Parce qu'on parle pas de quelque chose que ça fait depuis que t'es bébé, là.
Non,
hein?
Non.
Donc, qu'est-ce que c'est ta condition visuelle?
Moi, j'ai une atrophie du nerf optique.
Oui, mais provoquée par...
Par une tumeur cérébrale.
C'est ça. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose là, d'héréditaire dans la famille.
Non.
Donc, toi, c'est vraiment la tumeur cérébrale qui a provoqué l'atrophie des nerfs optiques.
Ouais.
C'est arrivé quand même, ça fait pas très longtemps, hein?
Non, ça fait 3-4 ans que c'est arrivé.
C'est ça. Tu avais à peu près 15 ans? 14-15?
Ouais, 14-15, ouais.
Donc, ce qui veut dire que 14-15 ans, tu as et la tumeur cérébrale et après ça, perte de vision totale, donc
oui.
Aveugle. OK. Comment ça s'est passé, ce processus-là, là, du moment qu'on te dit tu as une tumeur cérébrale, on t'opère, il y a des tests, comment ça s'est passé?
En fait, ma situation était un peu comme particulière parce qu'au moment où j'ai eu mon diagnostic, ma famille n'était pas ici au Canada.
Oh.
On vivait au Botswana dans un camp de réfugiés. Et quand j'avais commencé à avoir des pertes de vue, comme au camp, il y avait pas, l'accès aux soins médicaux était vraiment limité, alors on peut pas vraiment, mais comme, on savait pas ce qui se passait. Et comme il y avait une petite clinique, et j'allais là-bas comme presque chaque jour pour leur dire comme ce qui se passait avec mes yeux et tout ce que je vivais et tout, mais comme pour eux, c'était pas assez grave pour qu'ils m'amènent à l'hôpital, genre parce que c'était un long processus. Parce que les hôpitaux étaient loin du camp. Alors, il fallait demander des permissions, des trucs comme ça. Pour qu'ils t'amènent à l'hôpital, il fallait que ça soit vraiment, vraiment grave.
Ouais,
mourir.
Ben, c'est ça, exactement. Là. Quelque chose au niveau physique.
C'est ça.
Que tu... oh, ouais.
Alors, comme je disais, genre, j'ai perdu la vue et tout. Ils m'ont dit, ah, peut-être que tu as besoin de lunettes. J'ai attendu, ils m'ont donné des lunettes. J'ai commencé à mettre des lunettes pour m'aider à voir à l'école et tout.
Oui.
Mais il y avait un truc bizarre qui se passait avec mes yeux. On dirait, parfois, je me réveillais le matin et mes yeux étaient comme gonflés. Je ne comprenais pas, genre, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, un jour, je me suis réveillée comme ça. J'avais comme, comment on appelle ça, genre, tu vois quand les yeux, ils ne regardent pas dans la même direction?
Oui. Ben, en fait, comme quand ils sont astigmatistes, là, ou du strabisme.
Oui, strabisme, oui, c'est ça.
Chacun, genre,
c'est ça, je me suis dit, mais ça, c'est grave. Genre, comment ça, mes yeux, ils sont comme ça?
Ouais.
Genre, ça, c'est là que ça, j'ai commencé à paniquer. Genre, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, je savais que ce n'était pas dans mes yeux, mais dans ma tête. Parce que, genre.
Oui,
on dirait que je ne me sentais pas vraiment comme. J'étais pas vraiment comme moi-même. Comme on dirait, il y avait quelque chose qui se passait dans ma tête que moi-même, que j'arrive pas à expliquer.
Okay.
Et c'est ça, j'étais comme un peu trop dans la lune. On dirait que c'était pas comme... J'étais pas moi. On dirait que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma tête. Quand on allait à la clinique, ils disaient, ben genre, non, on peut rien faire pour elle. On a donné des lunettes et tout. On peut juste donner des trucs, des gouttes pour mettre dans les yeux. Et c'est ça qu'on peut faire. J'ai commencé à avoir des terribles maux de tête, surtout la nuit. On dirait que je sentais comme si quelqu'un me frappait avec un marteau derrière la tête, comme littéralement.
Et
quand j'avais ces maux de tête-là, j'avais comme une vertige comme terrible et j'ai vomissé et tout.
Ah, ouais.
Ouais, c'est ça. J'ai commencé à perdre du poids et comme à voir un peu flou du jour au jour. Je voyais ma vue partir jusqu'au moment où, quand on est allé à la clinique pour la dernière fois, il y avait mes deux sœurs aussi, parce que genre au camp, on était genre. Ma mère était restée au Congo quand on a quitté.
Mm-hmm.
J'étais avec mes sœurs et aussi ils ont comme lâché l'école pour m'aider, pour prendre soin de moi.
OK, mais là, toi là-bas, là, dans le camp de réfugiés, là, t'es avec tes sœurs?
Oui, mon père et.
Ton père et ta mère.
Non, pas ma mère.
Pas ta mère.
Oui, ma mère était. On a quitté le Congo en 2017 et ma mère était. Les circonstances n'ont pas permis qu'elle soit comme, qu'elle vienne avec nous, elle et deux autres petits frères.
OK. Donc, la famille était coupée en deux.
Oui, c'est ça.
Ce qui veut dire que là, toi, t'es avec ton papa, mais ton papa, lui, il doit travailler, sûrement. Parce que là, comme tu dis, tes sœurs, ils ont arrêté l'école pour s'occuper
pas
de toi.
Pas de moi, c'est ça.
C'est pas ton père qui pouvait faire ça.
Non. Oui, c'est ça. Donc, ma sœur, elle m'a guidée par la main pour aller... Et même sortir dehors, ça me faisait trop mal aux yeux, terriblement mal aux yeux à cause de la lumière. Alors, comme je mettais quelque chose pour me protéger, comme le visage, pour couvrir le visage et tout. Et ma sœur, elle m'a guidée au clinique. Puis, ils ont vraiment vu que, comme... Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille, genre... Non. Là, ils ont vu que c'était vraiment comme...
Grave.
Il y avait quelque chose qui ne va pas. Et ces journées-là... parce qu'à la clinique, je pense aussi, il n'y avait pas comme... Des gens...
Des spécialistes, oui, genre des neurologues.
C'était juste comme des infirmières stagiaires.
Ben oui.
Mais cette journée-là, il y avait comme... je pense que c'était un médecin qui était venu, qui passait juste. Je ne sais pas, il était venu faire quoi. Mais une chance, on est arrivé au même moment qu'il était là. Puis il m'a regardé, il a dit à ma soeur, je crois que tu as... Dites-moi, genre, c'est quoi qu'elle comme...
Les symptômes.
Oui, c'est ça. Puis on l'a dit, genre, elle a des maux de tête. Vous voyez, comme, elle est un peu pâle et tout ça. Puis elle a dit, il a dit à ma soeur, je crois que ta soeur, elle a une tumeur.
Hey.
Puis il a dit, je vais écrire une lettre pour demander la permission que vous allez comme... vous sortir du camp pour aller en ville faire une résonance magnétique.
Oui, OK.
Pour voir si elle a vraiment une tumeur ou pas.
OK.
Et c'est ça, ils ont fait comme le processus et tout. Une semaine après, on a eu la permission pour aller en ville faire une résonance magnétique. Et c'est là qu'ils ont,
ils ont vu
que j'avais une tumeur. Mais c'était encore comme... C'était pas très, très gros.
Comme c'est encore là, une tumeur là, qui était en stade pas très avancé.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais avec les symptômes que tu avais, imagine, c'était déjà énorme. Là.
Oui.
Mais oui.
Donc, ils ont dit à ma sœur, genre, OK, on va vous transférer à un autre hôpital. Puis là-bas, ils peuvent voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc, on est allé avec ma sœur. C'était vraiment loin. Genre, c'était vraiment une longue journée, parce que genre, le camp, c'était comme dans un petit village, et c'était comme 4 heures de route pour aller à l'autre hôpital, à l'hôpital, puis un autre 4 heures de route pour aller à l'autre hôpital.
Oh là là! Tu le vois, c'est vraiment pas la même réalité que nous ici, là. Même si des fois, il y en a qui chialent sur notre système médical, on s'entend que on est à des kilomètres là, de ce que toi, tu as vécu.
C'est ça.
Là, tu veux dire, avec tes sœurs, là, c'est quoi cette journée-là? Vous êtes en transport en commun?
Non, c'était comme un genre de bus que le camp avait comme... on avait comme payé le transport, parce que nous, non plus, on n'avait pas d'argent pour le transport. C'était le gouvernement qui s'occupait de tout ça, le transport et tout. Et c'est pour cela que même ma famille, le reste de ma famille ne pouvait même pas venir me voir à l'hôpital, parce que genre, le transport, il fallait comme demander...
Ils ne payaient pas pour tout le monde, là.
C'est ça, il fallait faire une demande de finances. C'est ça, on est allé avec ma soeur à l'autre hôpital, puis ils ont dit à ma soeur, ils ont fait d'autres tests sur moi, puis ils ont dit, elle ne peut pas retourner à la maison, toi rentre, puis elle reste ici. Moi, c'est là que ça a comme... C'est ça qui m'a comme... Parce que moi, quand on m'a dit... On vous avait dit que j'avais une tumeur.
Oui.
Étrangement, j'étais restée calme. Genre, on dirait que je m'attendais un peu à ça.
Ouais.
Je m'attendais à quelque chose de comme ça. Comme pour moi, c'était comme, OK, au moins, on sait maintenant ce qui se
oui,
passe.
Oui, oui, oui.
Mais là, quand on a dit à ma soeur, elle reste seule, j'ai dit, non, je ne peux pas rester seule, non.
Oh, oui,
genre, je ne peux pas vivre avec ça tout seul, genre, comme, je vais retourner à la maison et tout, je m'en fous si je suis malade, je vais juste être avec vous,
oh.
Tu vois. Puis, c'est ça. Puis, ils ont dit, non, avec, à cause du COVID. Parce que nous, on ne s'attendait pas que j'allais rester. Pour nous, ça, on s'est dit juste comme, on va faire la résonance magnétique.
Oui.
Puis, on va voir ce qui se passe.
Tu ne t'attends pas à aller te faire opérer, là.
En fait, il n'y a même pas d'opération. En fait, l'histoire est tellement genre. Parce que moi, je disais, OK, on sait ce qui se passe. Puis après, je rentre à la maison, puis on va voir. Maintenant, ils m'ont dit, tu restes ici, puis ta sœur, elle rentre.
Oui.
Donc, c'est à cause de la COVID et tout. Ils ont dit, ah ouais, on ne peut pas accepter tout ça, tout ça. Puis, j'ai commencé à pleurer. Puis, ma sœur, elle m'a dit, non, écoute, je vais retourner lundi. C'était un jeudi. Elle m'a dit, je vais retourner lundi pour te chercher. On m'a dit, lundi, je te prends, on rentre à la maison. Ça m'a donné un peu d'espoir. J'ai dit, OK, ça va. OK, ça va. Ils m'ont amené à ma chambre et tout. Puis cette journée-là, c'était tout noir. Le matin, je voyais un peu flou. Je voyais comme mon Dieu. Puis
okay.
Arrivé à la nuit, c'était comme c'était tout noir.
Donc ta perte de vision est arrivée là.
Oui.
Puis. Et c'est toute seule.
J'étais toute seule.
Oh là là.
En fait, c'était comme un
rêve.
Oui, j'ai dit, mais
ouais,
est-ce que c'est moi?
Ouais.
Ou genre. Est-ce que je suis ici dans l'hôpital? Parce que j'ai jamais passé de nuit à l'hôpital.
Non, c'est ça. T'es
avant.
Comme dans une autre dimension, on dirait. Là, tu comprends pas trop ce qui se passe.
Oui, il y a comme. J'ai comme un peu réfléchi aux trois derniers mois parce que tout s'est passé genre en trois mois. Je voyais parfaitement bien.
Mais oui.
Puis tout d'un coup, j'ai commencé à perdre la vue. Mm-hmm. Puis regarde-moi aujourd'hui, je vois plus rien et je suis dans un hôpital tout seul. C'est comme, c'est quoi qui se passe? Genre, c'était trop dur à avaler tout ça. Je me suis dit, OK, au moins lundi, ma chère va venir me chercher.
Mm-hmm.
Puis je rentre à la maison.
Mm.
Puis le lendemain matin, on est venu me faire comme un test COVID.
OK.
Et devine ce qui s'est passé.
Mais là, en plus, tu es dans la période de la COVID,
oui.
Par exprès, hein, c'est ça?
C'est ça. Puis
bon,
j'ai testé positif
mais
pour
oui,
la COVID.
C'est ça.
C'est ça, ils m'ont mis dans
en quarantaine. Oh,
donc,
mon Dieu.
Lundi, ma soeur est venue me voir.
Elle pouvait
même pas me voir. Genre, en fait, j'étais là, j'attendais. Genre, le matin, je me suis dit, ma soeur, elle va venir en n'importe quel moment. J'étais là, j'attendais. Puis, elle n'est pas venue. J'attendais longtemps. J'attendais longtemps. Puis, j'ai commencé à m'inquiéter. L'après-midi, il n'y avait personne.
Mm-hmm.
J'ai commencé à pleurer. Puis, je me suis endormie. Puis, quand je me suis réveillée, c'était la nuit. Puis j'ai vu, il y avait comme sur mon lit, il y avait comme un sac avec des biscuits et des trucs comme ça. J'ai demandé à l'infirmière qui est venue, genre, c'est qui a laissé ça ici? Elle a dit, c'est ta sœur. Elle a dit, elle est où?
Oh.
Je suis allée avec ma sœur. Elle a dit, elle est partie. Ça, c'était un cauchemar. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, je vais voir ma sœur. Je vais retourner dans la maison. Je vais voir ma sœur.
OK, puis... mais là, Anouchka, ça veut dire que toi, t'es toute seule à l'hôpital.
Ouais.
On prend-tu soin de toi? Est-ce qu'on t'explique? Parce que, tu sais, OK, t'as une tumeur, mais là, c'est comme t'as et une tumeur et... t'es aveugle et t'es toute seule. Est-ce qu'on prend soin de toi? Est-ce que t'as du soutien ou c'est comme...
Non, c'est juste comme... T'es genre là,
mais arrange-toi toute seule.
Oui, parce qu'en fait, parce que j'étais réfugiée...
Ah oui, mais c'est ça.
Les soins, comme ça, il fallait comme...
Faut payer.
Que je me fasse opérer, mais... L'opération coûtait trop cher, comme
c'est
le
ça.
Gouvernement, c'est comme... Il demande à lui, à l'organisme comme... UN, comme UNHCR, c'est eux qui s'occupent de réfugiés, genre, au monde, quoi.
Mm-hmm.
Puis, comme, pour l'opération, ça, c'était trop cher, comme, il n'y avait pas de fonds pour...
Mais idéalement, ça te prenait une opération.
Oui, et en ce moment-là, si j'étais, comme, opérée, si je me suis fait opérer à ce moment-là, j'allais récupérer ma vue.
Oh.
Parce que là, c'est ça. Parce
c'est
que
ça.
Ce qui a causé ma perte de vue, c'était pas la tumeur en soi, mais parce que je suis restée longtemps avec.
Mais c'est
ça. Sans
c'est
traitement,
ça.
Ni
c'est
rien.
Ça. C'est ça. Est-ce
donc,
que finalement, ils t'ont opéré?
En fait, on attendait notre voyage ici. Parce que même avant que je tombe malade, on savait qu'on allait voyager ici. Parce que c'est comme, tu vois, je sais pas si tu sais comment ça se passe dans les camps des réfugiés.
Mais
et
ici,
tout.
C'était un voyage? C'était pas supposé, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, c'était déjà planifié avec ta famille de venir ici, mais comme en voyage, de venir emménager ici.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, comment ça se passe comme, quand t'es réfugié, on cherche comme à te retrouver une nouvelle
oui.
maison, tu vois. Et
oui.
Donc, nous, on nous avait dit, votre nouvelle maison serait au Canada, mais
mm-hmm.
on attendait notre voyage et c'est un long processus.
Ben oui.
C'est vraiment long. Il faut faire le check-up médical, il faut faire plein de trucs. Et à cause de la COVID aussi, ça avait retardé parce que les frontières étaient fermées. Alors, on a commencé un peu à mettre un peu de pression pour dire genre si, parce qu'elle est comme on a quelqu'un de malade dans cette famille, est-ce que c'est possible de comme de un peu comme avancer rapidement le processus pour que parce que genre il fallait que je me fasse opérer ici au Canada.
Mais dans le fond c'est ça.
Oui, parce qu'on était comme on était aux yeux du gouvernement comme là où on était comme au Botswana, on était c'était pas eux qui étaient en charge de nous, c'était le gouvernement canadien, parce que genre c'est eux qui nous avaient accepté comme qu'ils allaient nous prendre. Donc pour eux l'opération, ils ont dit c'est pas nous qui va s'en charger, c'est comme
le Canada.
Oui, il fallait comme on voyage ici. Maintenant le voyage aussi était long et donc je suis restée à l'hôpital, il y avait pas de traitement, il y avait pas d'opération.
En tout et partout là, le temps que t'es arrivée à l'hôpital, que t'es restée seule.
C'était des mois, j'ai passé des mois à l'hôpital.
T'as passé des mois.
Plusieurs mois.
Toute seule.
Ouais.
Et après ça le voyage, ça a pris combien de temps?
En fait, la tumeur, elle est restée trop. En fait, avant, je me disais, mais ces trucs de. À part ma perte de vue, je sentais pas de maladie dans mon corps. Genre, on dirait que c'était comme. Ok, j'avais des maux de tête et tout, mais genre, je disais, mais genre, je suis pas malade, je suis correct, je vais retourner à la maison. J'ai même dit au docteur, genre, aux infirmières qui étaient là, comme. J'ai dit, si je rentre pas à la maison, c'est pas la maladie qui va me tuer, c'est la solitude.
Oui.
Puis. Je suis restée comme des mois à l'hôpital, puis après, on m'a amenée à la maison pour comme quelques jours. Puis c'est là mon corps, il a vraiment lâché. Même avant qu'on m'amène à la maison, comme, parce que j'avais demandé, est-ce que je peux juste aller comme pour quelques journées, passer des temps avec ma famille et tout. Déjà, une partie de mon visage était comme... Je ne sentais plus une partie de mon visage, j'étais comme un peu paralysée et tout. Et c'est de là que genre, ouais, c'est ça, mon corps a vraiment lâché, je suis tombée dans le corps. En fait, je pense que j'ai perdu la tête, comme parce que...
nous ici, moi, j'appelle ça de même, là, mais j'appelle ça un shutdown. C'est comme le corps, il lâche.
Ouais.
Et là, après ça, ça peut être plein de symptômes. T'sais, ça peut être autant quelqu'un qui fait des convulsions même conscientes. Là. T'sais, la personne est consciente qu'elle fait des convulsions, donc c'est pas des vraies convulsions, mais c'est comme un shutdown.
Ouais.
Perte de connaissance, justement, coma. T'sais, c'est comme si le corps, toi, là, tout le temps que tu es à l'hôpital, tu t'es maintenu dans quelque chose de où est-ce que tu es comme en mode gestion de crise. Là, Et là, quand tu arrives dans ta famille, c'est comme si là, tu peux te déposer. Mais finalement, le corps, tout ce qu'il a accumulé de stress pendant les mois avant, là, il lâche.
C'est ça.
Fait que t'es tombée dans le coma.
Ouais. En fait, tu vois, comme avec le temps, genre, parce que la tumeur, elle grossissait dans la tête, j'ai commencé à vraiment sentir que, genre, je suis malade, là. Genre,
oui.
Je sentais dans mon corps vraiment, genre, les vertiges, c'était terrible. Genre, en fait, j'arrivais même pas à m'asseoir. Quand j'avais ces vertiges-là, même m'asseoir, je sentais de la vertige, même quand t'es assis et tout. Mais en fait, à l'hôpital, quand j'étais seule, quand les médecins, là, ils venaient... En fait, j'avais pas de traitement et tout. Je disais, mais genre, ça sert à rien que je reste ici, alors amenez-moi à la maison. Ouais. Alors, je prétendais être comme... Je suis pas malade. Quand les médecins venaient me voir...
Pour les convaincre
que... Oui, que je dois rentrer à la maison.
Pour retourner à la maison, c'est
genre,
ça.
Quand même, quand je me sentais pas bien, je disais, je m'assoyais, j'étais là, je souriais. Puis pour leur montrer que, genre, je suis bien, je vais rentrer à la maison, t'as vu. Ouais, donc quand je suis rentrée à la maison, je ne m'appelle pas vraiment de ce qui s'est passé parce que j'ai perdu connaissance.
Mais oui.
C'est ça, genre, mon corps l'a lâché. J'avais comme des crises. La tumeur avait déclenché des crises épileptiques.
Ben, c'est ça, je te dis, des convulsions.
Oui, c'est ça.
Mais oui.
J'arrivais plus à entendre, à parler. Toute partie, je pense, droite de mon corps était paralysée.
Ben, c'est ça.
La partie gauche, il avait des spasmes, genre, ça bougeait dans tout, constamment.
Ouais.
Et c'est là que je ne me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé.
Mais non.
Puis quelques mois après, je me suis réveillée, j'étais au Canada.
Hein?
Ouais.
T'es retournée chez toi, t'as comme ton corps a lâché, donc évidemment, t'es pas vraiment consciente de tout ça.
Oui, apparemment. Genre,
mais t'as pas été consciente du voyage, de combien de temps ça a pris?
J'étais dans le coma, parce qu'en fait, à ce qui paraît,
voyons
on m'avait ramené à l'hôpital, ma soeur m'a raconté, genre, parce que genre, tout le monde a pu, c'est cette période-là, c'était comme, c'est dur d'en parler, même aujourd'hui avec ma famille, genre, c'était vraiment, genre, c'était très, très difficile. À ce qui paraît, genre, quand mon corps a lâché, on m'avait ramené à l'hôpital et j'ai passé plusieurs autres mois là-bas à l'hôpital. Mm-hmm. Mais moi, je ne me rappelle plus de rien. Mm-hmm. Ouais, parce que genre, je respirais juste, j'avais juste la respiration. Mm-hmm. Et je suis très contente que je ne me rappelle pas de rien parce que l'hôpital...
Ah oui, hein?
Non, non, c'était trop dur. Pour moi, l'hôpital, c'était...
Mais en fait, je pense qu'il y avait, une stratégie aussi de... Ouais. de tu sais, comme, je ne suis pas capable, je ne peux plus vivre ça, là.
Ouais. Donc, ah ouais, on m'avait ramené à l'hôpital jusqu'au temps de notre voyage. Puis tout ça, moi, je ne me rappelle pas de rien. C'était comme... Des mois se sont passés.
C'est pour ça que tu ne sais pas non plus exactement à quel âge tout ça s'est arrivé. Oui. Parce qu'il y a comme une partie que tu ne sais plus. Tu le sais que tu as entre 14 et 15 ans. Tu sais, tu es une adolescente, tu le sais. Mais après ça, quand ça a commencé le processus, ça se peut que ça soit même plus long que ce que tu penses.
Oui. En fait, quand j'ai eu ma diagnostic, j'avais 13 ans. Puis quand je me suis réveillée ici...
T'avais 15?
J'avais 13 ans. Puis quand je me suis réveillée ici, on m'avait dit « t'as 14 ans ».
OK.
Parce que je me suis réveillée après mon anniversaire.
OK. Puis là, tu sais que t'as 14.
C'est ça. Parce que genre, mon anniversaire, c'est en janvier. Puis quand on est arrivés, nous, en décembre ici, puis moi, j'aurais pris connaissance...
À l'hôpital.
Oui, à Saint-Justine, ici, c'était en mars, vers mars, je crois.
Tu te rappelles... d'avoir ouvert les yeux et de faire « OK, je suis où? »
C'est ça.
Et t'es à Sainte-Justine.
Oui. Puis elle m'a dit « Ouais, c'est ça, on a voyagé. » Là, t'as 14 ans, ton anniversaire est déjà passé. T'as
et
eu
là,
ton
t'as
opération.
Été OK, oui, t'as même eu ton opération.
Parce que mon opération...
À Sainte-Justine?
Oui, parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Genre, dans l'avion, on m'avait mis dans un petit lit comme ça, puis on avait voyagé avec un docteur du Botswana pour s'assurer juste que est-ce qu'elle est encore vivante.
Ben oui, c'est ça.
Parce que en fait, ce qui se passait, c'est que ma famille priait que on arrive ici, que je sois encore.
Attends.
Oui. Parce que j'étais vraiment comme j'étais morte. Il ne restait plus rien.
Oui.
Puis en fait, quand on est arrivé, l'ambulance nous attendait à l'aéroport.
Okay.
Je suis arrivée, on m'a mis directement dans l'ambulance à Saint-Justine et directement on a fait mon opération. Parce que genre, la même nuit...
C'est pas... J'en reviens pas. Tu parles, j'ai la bouche ouverte. J'en reviens pas. OK. Donc là, tu te réveilles à Sainte-Justine. T'as été opérée.
Mm-hmm.
Mais là, t'as été opérée, comme tu disais, trop tard.
Ouais.
Donc, la vision, elle est impactée. Mm-hmm. Les nerfs ont eu le temps de s'atrophier. Mm-hmm. Ce qui veut dire que même si on a enlevé la tumeur... T'es aveugle.
Ouais.
C'est ça.
Parce qu'à cause du temps que ça
ben oui.
C'était vraiment, c'était comme, c'était une bosse. C'était gros, c'était rendu vraiment, vraiment gros.
C'est sûr, c'est sûr. Avec le temps, là, ça veut dire que ça grossissait.
Oui. Genre, en fait, je le sentais, genre, dans ma tête, on dirait, genre, quand ça montait, on dirait que je sentais vraiment quelque chose monter, genre, ça avait commencé même derrière la tête.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que ça avait affecté ma vue en premier, parce que, genre, tu vois, les nerfs... de vue sont derrière la tête.
Ouais.
Puis c'est là que ça avait commencé. Et mon père, il m'a dit, genre, on me l'avait montré, le truc que t'avais dans la tête, j'arrivais pas à croire.
Que c'était gros de même.
Oui, c'est impossible d'avoir ça. Elle m'a dit, c'est comme, c'est un miracle que t'es
comme ça. Ah, mais t'es miraculée, là, pour vrai. Tu sais, avec tout le parcours. Tu sais, puis j'avais aucune idée de ça. Tu sais, dans le sens que, moi, je t'avais posé comme des petites questions, mais j'avais aucune idée de ce que tu avais vécu. Je savais juste que ta vision, tu avais perdu vers 15 ans, mais Jacques Ouellet. Donc, juste pour ça, moi-même, je suis abasourdie là, d'entendre tout ça. Et la façon que tu le racontes et comment tu as une force en toi, bien malgré toi, probablement parce que tu t'es pas dit à aucun moment. Je vais être forte, c'est comme si ça s'est fait naturellement au fur et à mesure là, d'être confrontée à toutes ces épreuves-là.
Mm-hmm.
Mais c'est pour ça qu'à l'école, quand ils me disent « Oh oui, Anouchka, tu vas voir, elle est vraiment inspirante », ben mon Dieu, écoute, tu me vois peut-être pas, mais je veux dire, je suis devant toi, puis je suis comme « Oh mon, wow, tu viens de me transmettre quelque chose là, tu sais, au niveau du courage, de que waouh, tu sais, je te trouve vraiment inspirante.
Ouais, parfois on n'a pas le choix, hein. Tu vraiment. Sais, parfois genre on n'a pas le choix d'être forte.
Ouais. Et, mais c'est ça, ça c'est toi. Puis justement quand t'as fait, parce que là tu viens parler tu sais, les gens, les auditeurs vont t'entendre, vont dire « Ah, oh, mon Dieu, wow, cette fille-là est vraiment inspirante. » Mais à l'âge des possibles, cette émission-là aussi, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est de transmettre un peu ton histoire,
ouais,
et d'inspirer les gens. Parce que tu me disais ça, tu sais, que pour toi, c'était important d'inspirer, mm-hmm, les gens.
Parce que je me suis dit, genre, si j'ai vécu tout ça, puis je le garde pour moi-même, mm-hmm, je l'ai vécu pour rien.
Ah,
genre,
ouais,
vaut mieux comme l'utiliser comme pour donner la force à d'autres personnes, et ouais, comme l'espoir que, genre, même après une tragédie, on peut, mm-hmm, continuer à rêver, et on peut continuer comme à rêver grand même. Genre,
ouais.
Parce que les limites, on se le met à nous-mêmes, hein, genre, on met nous-mêmes des limites, et comme on peut pas décider ce que la vie nous envoie, genre on peut pas décider les, mm-hmm, les défis qu'on mm-hmm, rencontre, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est comment on le transforme et comment on le vit,
mm-hmm,
et tu vois, on peut passer le restant de notre jour à s'apitoyer, ouais, sur notre sort, et ça c'est correct aussi, mais il faut savoir que, genre, les défis sont pas là pour nous abattre, mais pour être comme surmontés, et c'est ça que moi je suis comme qui me pousse à avancer, parce que je me dis, genre, la seule chose que je peux comme fight back,
mm-hmm,
c'est de persévérer et montrer que, genre,
ouais,
en fait, c'est comme la vie, c'est comme un combat,
mm-hmm,
genre la vie te donne des coups, et la seule façon que toi aussi tu peux le combattre, c'est, ouais, en disant que, genre, en fait, même si tu me donnes ça, je peux me relever et,
oui,
je peux continuer. C'est la seule façon que nous aussi, on peut comme donner des coups aussi comme back, tu vois, comme,
mm-hmm,
je veux dire. C'est,
mm-hmm,
c'est ça.
Mais tu vois, juste là, comment tu parles, tu as 18 ans, là. On dirait que tu as vécu 1000 vies. Tu as vécu plus que ce que la plupart des gens vont vivre dans leur vie, et dans un très jeune âge. Et moi, je te dis, je te lève mon chapeau, j'en perds les mots. Je ne sais même pas comment dire à quel point tu as une force incroyable qu'on ne voit vraiment pas souvent. Anouchka, c'est sûr que je vais te recevoir dans mon émission, parce que ça a passé tellement vite, mais tu as tellement de choses à nous transmettre.
Ouais, ouais.
Donc, c'est sûr que je vais te réinviter dans mon émission pour que tu viennes nous parler de comment,
merci,
tu traverses les épreuves et la vie. Alors, tout de suite après la pause, je vais recevoir Émilie Boyer, une autre belle jeune qui a participé à l'émission L'âge des possibles. À tout de suite.